Bonjour. Alors, la semaine dernière, nous avions examiné les conditions très rudes dans lesquelles s'est exercée la conquête arabe en Asie centrale et notamment en Sogdiane. Alors, nous allons maintenant envisager, disons, les suites immédiates de la conquête du point de vue, disons, social et du point de vue du paysage urbain. La conquête a entraîné un peu partout un partage des espaces urbains préexistants. Contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, les Arabes ont assez peu souvent, on peut peut-être même dire jamais, fait le choix de construire leur propre ville à côté du site ancien. Oui, ils l'ont fait pour Merv, mais plus tard, voilà. Et pour Bactre, mais très temporairement. Ils ont occupé les sites urbains préexistants. Alors, on a déjà vu dans les conditions de l'armistice de Samarcande qu'était prévue l'évacuation d'une partie de la ville par la population locale. Nous allons examiner plus en détail comment ça se traduit sur le terrain à Samarcande et dans d'autres endroits. Alors, à Samarcande, je vous avais donc dit que probablement au moment de la conquête arabe, la ville avait déjà réoccupé, en partie au moins, son plus ancien espace urbain de 220 hectares, et qu'au moins, vraisemblablement, c'est sur cette ligne extérieure que s'était exercée la défense. Mais l'armistice conclu par Koutaïba prévoit que la population locale doit évacuer la ville. Alors, vraisemblablement, il faut entendre par là ce que les géographes ultérieurs qui parlent de Samarcande décrivent comme la madinate intérieure, c'est-à-dire une ligne de rempart qui a matérialisé au IVe, Ve siècle la rétractation de l'espace urbain. Alors, il se trouve que les fouilles que nous avons menées dans ce secteur, sur cette ligne de rempart, voilà, ici, ont confirmé que ce rempart de briques crues était resté entretenu jusqu'à la fin du 8e, début du 8e siècle. Donc, à peu près 80 ans après l'armistice, et entretenu contre qui ? Vraisemblablement, comme pour matérialiser la ligne de ségrégation entre la garnison arabe et les familles et la population locale. Alors voilà la coupe, ici. Vous voyez des plaquages à l'intérieur qui sont des renforcements. Bon, c'est très usé, c'est pas comme un rempart en pierre. Hein. Ça s'érode énormément, ces remparts en briques crues et en terre crue. Mais sur, disons, les sols de rue, espace non aedificandi qui a été maintenu le long du rempart à l'intérieur, on a pu relever des complexes, des ensembles de céramique qui peuvent nous amener jusqu'au début du IXe siècle. Donc, une confirmation archéologique de ce que, effectivement, une ligne de démarcation existait pendant près d'un siècle à l'intérieur de la ville. Alors, une autre confirmation indirecte, c'est la répartition des quartiers artisanaux. Alors, voilà la ligne de démarcation telle que nous supposons qu'elle existait. Et ce qu'on constate, c'est que, par exemple, les potiers, qui, avant la conquête, étaient, dans certains cas, dans le centre-ville, il y a un quartier important ici, petit à petit partent vers la périphérie et finalement se retrouvent dans la deuxième ligne de rempart. C'est-à-dire qu'ils sont peu à peu expulsés de la zone que nous pensons occupée principalement par la garnison arabe et les familles. Ce qui est normal, puisque l'artisanat, les potiers, ce sont en grande partie des éléments locaux, bien qu'on constate qu'il y a des apports technologiques d'Irak, dû y avoir des potiers qui sont venus d'Irak. Et puis, c'est une activité très polluante, susceptible de déclencher des incendies, et donc qui tend à être expulsé des centres-villes. Et puis, mais évidemment, c'est toujours le long des branches de canaux d'irrigation, puisque la poterie est une activité qui est très gourmande en eau. Alors, ce qui subsiste dans la ville intérieure, c'est les ateliers métallurgiques. C'est tout à fait normal, puisque la métallurgie, ça veut dire l'armurerie. Et que, donc, là, elle doit être sous contrôle de la garnison. Voilà. Donc, ça, c'est une confirmation indirecte. On a un chiffre précis. On sait qu'en 721, quand la garnison de la ville a été pratiquement anéantie dans un combat contre les Turcs, il a fallu la regarnir très vite, la garnison comportait 12 000 hommes, sans compter les familles. Nous ne pensons vraiment pas que tout ce monde-là pouvait loger à ce moment-là dans cette zone. Il devait être réparti dans divers endroits, mais avec sans doute une concentration particulière dans la Madinate intérieure. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que, toujours dans cette zone centrale, pendant longtemps, jusqu'au début du IXe siècle, on ne construit pas de nouvelles maisons. On squatte, on réoccupe les anciennes structures sogdiennes. Il faut dire que les Sogdiens, ils prévoyaient grand. Ils construisaient avec des murs de 2 mètres ou 3 mètres d'épaisseur. C'était prévu toujours sur 2 étages. Comme disait Marchak en visitant un de ses quartiers, c'est comme les princes russes à Saint-Pétersbourg avant la Révolution. Ils pensaient qu'ils étaient là pour toujours. Alors, ils construisaient des choses massives, monumentales, etc. Et puis après, c'est devenu les appartements coopératifs. Ça s'est retrouvé cloisonné, fractionné, réoccupé. On n'a pas cherché pendant longtemps à construire du neuf. Alors voilà, ça c'est le quartier. C'est le quartier où on a trouvé la grande peinture dite des ambassadeurs, qu'on voit ici au moment de la découverte. Les lignes rouges matérialisent l'emplacement de la peinture sur les murs. Ouais, bon, c'est un quartier sogdien typique avec des grandes pièces de réception, une pièce très grande ici, une pièce un peu plus intime où se trouve la peinture des ambassadeurs. Enfin, ça fait quand même 11 mètres sur 11. Des grandes enfilades de corridors, et puis les espaces à vivre, on ne les voit pas tellement ici parce qu'ils étaient à l'étage. Bon, alors tout ça, ça continue à être réoccupé à la période suivante. Voyez, ça c'est période pré-islamique, la période islamique. La partie, la pièce qui comportait la peinture des ambassadeurs a été bourrée de terre pour devenir une plateforme sur laquelle on a construit quelque chose d'autre. Ça a été une chance unique pour les fouilleurs, parce que c'est comme ça que la peinture nous est parvenue. Et puis, vous voyez, partout, c'est cloisonné, c'est divisé. On voit très bien que ce qui, à la place des grandes familles aristocratiques, ce sont des petits groupes, des petites familles, vraisemblablement des éléments de la garnison qui occupent l'espace. Ces nouveaux occupants ont eux-mêmes laissé des peintures. Mais bon, vous voyez tout de suite, ce n'est pas la peinture sogdienne pré-islamique. Comme disait Paul Bernard, c'est de la barbouille. Bon, les fouilleurs ont essayé de trouver des signes cultes de Mitra, avec les grenades, les vases à fleurs, etc. Bon, c'est exactement, c'est de la peinture de maison de thé de village. C'est ça qu'ils ont laissé. Donc, ils font pas appel à des professionnels, contrairement aux familles aristocratiques de l'époque précédente. Et puis, il y a rien de commun du point de vue des thèmes. Alors, les nouveaux maîtres de la ville, à partir des années 740, c'est-à-dire on est déjà 30 ans après la conquête, marquent quand même, prennent certaines initiatives architecturales qui marquent l'espace, mais par des constructions emblématiques du pouvoir. C'est tout ce qui se construit, semble-t-il, jusque... Voilà, ces trois monuments que vous voyez ici, les deux palais et la mosquée, vraisemblablement... ont été construits entre 740 et 780. Et c'est seulement au IXe siècle, à la période samanide, qu'on va voir apparaître vraiment des quartiers résidentiels qui ne seront pas du tout sur le style des anciens quartiers sogdiens. C'est des maisons autour d'une cour centrale. C'est un schéma qui a été introduit du Proche-Orient, qui n'existait pas dans les maisons sogdiennes, avec des murs minces, des constructions, une construction de moins bonne qualité, ce qui n'empêche pas que dans certains cas, ça pouvait être décoré de manière très élégante par des panneaux de stuc. On verra ça plus tard. Bon, ce qui se construit, disons, à la fin de l'époque omayyade et au début de l'époque abbasside, ce sont donc d'abord deux palais. Le premier, que j'appelle, c'est celui que j'ai fouillé, que j'appelle le palais omayyade, que par divers indices, j'attribue à l'époque du gouvernorat de Nasr ben Sayyord, le dernier gouverneur omayyade, dans les années 740, qui a pacifié le pays et a eu une politique, disons, d'entente avec les aristocraties locales. Alors, il est fouillé incomplètement, hein, mais on voit que ce n'est pas une réalisation architecturale très pensée. On a des enfilades de pièces, dans un style qui évoque, qui n'est pas sans rappeler celui des palais omayyades d'Irak et des palais omayyades de Syrie-Jordanie et des palais abbassides d'Irak, mais c'est pas une réalisation véritablement architecturale. Même si c'est très puissant, ça a demandé beaucoup de moyens, les murs sont très épais, on avait vraisemblablement prévu un étage qui finalement n'a pas été monté, et puis la plupart des pièces sont couvertes de dalles de terre cuite. Ça, c'est une innovation introduite à cette époque, avec des tampons en écriture koufique qui nous donnent des indications sur le contexte de réalisation. Je serai amené à en reparler, disons, pour simplifier. Il y a trois tampons. Il y a deux tampons qu'on lit Irshid et Ishtihan. Irshid, c'est le nom des anciens rois de Samarcande qui sont exilés à 30 km de là dans une ville qui s'appelle Ishtihan. Donc on voit très bien que ça tourne autour des anciens maîtres. Et puis il y a un autre tampon où on lit un nom arabe, Hammad. Il y a très peu d'Hammad attestés à cette époque dans la région. Il y en a un, Hammad al-Sourdi, qu'on pense avoir été le Hamil, le collecteur des impôts de Nasr ben Sayyar à Samarcande à cette époque. Et l'hypothèse que j'ai faite, c'est que ce palais a été réalisé avec une contribution des anciens maîtres de la ville qui étaient co-responsables de la levée de l'impôt avec le collecteur d'impôts, du nouveau pouvoir. Une co-responsabilité qui s'est établie dans les années 720. Avant, c'était uniquement les anciens seigneurs qui étaient chargés de collecter l'impôt. À partir des années 720, on ne leur fait plus tout à fait confiance et ils sont jouxtés par un amil arabe. Et c'est cette situation qu'exprimeraient les tampons sur les briques du palais ordonné par le gouverneur, dans lequel il n'a pas dû beaucoup habiter puisque Nasr ben Sayyor, après avoir pacifié la Sogdiane, est revenu à Merv. Et puis le palais s'est resté inachevé. Il y avait quand même apparemment une grande salle d'audience qui était prévue dans un secteur. C'est resté inachevé parce que, pourquoi ? Là encore, c'est hypothétique, mais c'est très tentant. Un nouveau maître arrive, Abu Muslim, l'auteur, l'organisateur de la révolution abbasside, qui est un Iranien d'une origine très obscure, et qui, en fait, qui a mis les Abbassides sur le trône, qui a organisé la révolte, et qui, pendant quelques années, a gouverné depuis Samarcande tout le Khorasan comme gouverneur pratiquement indépendant. Bon, évidemment, il est arrivé ce qui devait arriver. Au bout de 5 ans, les Abbassides, pour le remercier de ses grands services, lui ont confié l'immense honneur de conduire le pèlerinage à la Mecque. Et puis, bon, bah, il fallait venir quand même saluer, manifester son attention au calife, au passage. Et évidemment, pendant l'audience, le calife bat des mains et des assassins sortent derrière les tentures et abattent Abu Muslim. Il était devenu trop puissant et trop indispensable. Alors voilà, son palais a été fouillé par Yuri Karieff. Je serai amené à en reparler. Alors vous voyez, c'est très contrasté, très différent, c'est plus petit, mais là, c'est une réalisation architecturale pensée, avec une cour centrale, des enfilades de pièces très régulières, une rangée de grosses colonnes rondes qui sont une complète, en briques, qui sont une complète innovation dans la région, qu'on va retrouver uniquement, à la même époque uniquement au palais de Vararcha près de Boukhara, dont je vais parler plus tard, et qui sinon renvoie clairement au souvenir de l'architecture sassanide d'Iran et d'Irak. Mais là encore, ça n'a pas été terminé. Il devait y avoir un étage, il n'a pas été monté. Il n'y a aucun décor, ce qui est tout à fait invraisemblable. Il est évident qu'un décor était prévu. Mais Abou Muslim ayant été assassiné en 755, ses gouverneurs, ses successeurs, qui d'ailleurs au début tournent très vite à Samarcande, ne se préoccupent pas d'achever son œuvre. Et le palais continue à être occupé, mais il est plus ou moins transformé en casbah, en fait. Le mur, l'aile de grande colonne n'a jamais été terminée, c'est remplacé par un mur, etc. Je serai amené à parler de ça. Là, on voit vraiment les nouveaux maîtres qui marquent, qui commencent à marquer l'espace. Et évidemment, ce qui complément, à côté des édifices du pouvoir, il y a la mosquée. Il y a toujours eu une mosquée à Samarcande depuis la conquête en 712, l'armistice conclu par Koutaïba, les conditions, les récits de la prise de la ville par Koutaïba indiquent qu'il a fait construire une mosquée, vraisemblablement à l'emplacement d'un ancien temple que nous pensons se trouvait dans la zone, mais qu'on n'a pas trouvé. Quand on dit mosquée, ça peut être simplement un mur devant lequel on priait. Une véritable mosquée sur plan carré de type syro-irakien, enfin déjà de type médine, s'érige vraisemblablement, pensons-nous, dans les années 760-770, donc un peu plus tard que les palais. Sa construction mange en partie l'ancien palais de Nasr ben Sayyar, mais qui continue à être occupé, alors on ne sait pas très bien, peut-être par des bureaux, peut-être par ses descendants, on n'a pas beaucoup d'indices. Dès peut-être un demi-siècle plus tard, déjà au début des Samanides, la montée des conversions amène un public de plus en plus nombreux à la prière du vendredi, la mosquée est élargie vers l'ouest. C'est un schéma qu'on retrouve ailleurs en Asie centrale. Et là, l'ancien palais oumayyade disparaît presque complètement. Donc, on ne peut pas dire qu'à partir des années 740, les nouveaux conquérants marquent l'espace urbain, mais, encore une fois, uniquement par des monuments du pouvoir. Monuments du pouvoir, monuments militaires aussi. Ils n'ont pas refait les remparts de la ville qui était extrêmement massif et robuste depuis en fait l'époque grecque, ce qui n'avait pas empêché Koutaïba de prendre la ville avec des catapultes. Ils continuent à occuper la citadelle qui est ici, mais ce qu'ils font, ce que fait Abou Muslim, c'est qu'il fait entourer d'un long mur l'oasis de Samarcande. D'autres oasis d'Asie centrale, comme Merv, Balkh, avaient été entourés de murs. Samarcande, ça n'apparaît qu'au milieu du 8e siècle avec Abou Muslim. Avant lui, c'est un réseau de châteaux qui entoure l'oasis sur à peu près tout de même une vingtaine de kilomètres de long. Et c'est Abou Muslim qui fait relier ce réseau de châteaux par un mur. Alors autant la construction des deux palais et de la mosquée est totalement ignorée des textes que nous avons, autant la construction du mur de l'oasis est mentionnée par Tabari. Voilà ce qu'on peut dire sur Samarcande même. Alors, autre site voisin de Samarcande, dont j'ai déjà parlé, c'est Kafir Kala, à 10 km, qui est très vraisemblablement l'ancienne Refdat, la résidence hors les murs des rois de Samarcande. J'en ai parlé parce que de la salle du trône qui se trouvait là, proviennent les extraordinaires panneaux de bois que j'ai montrés à plusieurs reprises, qui ont été trouvés il y a un an et demi, et dont je peux vous dire maintenant, parce que ça a été décidé lors de mon séjour à Tachkent et Samarcande il y a 10 jours avec une délégation du Louvre, qu'on les verra au Louvre ils seront dans l'exposition qui se tiendra à partir d'octobre 2021. Ici, on avait évidemment une grande cour en partie sous colonnade de bois avec toute une rangée de pièces d'apparat autour. C'est la cour d'audience, c'est l'endroit où le roi de Samarcande recevait des délégations, peut-être célébrait les fêtes du Nouvel An. C'est typique de ces palais, pas forcément résidentiels, mais somptuaires, qu'on a aussi dans le monde sassanide. Alors, c'est réoccupé après la conquête. Alors, d'abord, il y a un incendie, et depuis très peu, on pense dater l'incendie. On a des monnaies là, et l'incendie daterait de 712, c'est-à-dire au moment même où Samarcande tombe. Au moment où Samarcande tombe, on met le feu à la résidence hors les murs du souverain. Et puis, ensuite, s'y réoccuper. Alors, hein, les traits plus foncés indiquent les murs plus tardifs. Bon, la colonnade est incendiée, n'est pas reconstruite. Sous les cendres de l'incendie de la colonnade, on a trouvé une incroyable collection de sceaux, plutôt d'empreintes de sceaux sur des bulles d'argile crue qui ont cuit miraculeusement dans l'incendie malheureusement, l'incendie il a aussi détruit les documents qui étaient attachés aux sceaux. Donc on n'a plus que les sceaux, on n'a pas les parchemins. Peut-être finira-t-on par en trouver ailleurs. Donc ça, c'est pas reconstruit, on voit très bien. On cloisonne. Alors, vous voyez ici, typiquement, ce que vous voyez ici, c'est une voûte superbe. C'est la technique dite en tranche inclinée qu'on observe très bien en Asie centrale, une voûte en briques crues, construite sans étai. C'est des prouesses technologiques sur un long corridor. Sauf que là, ce que vous voyez, ce n'est pas la voûte, c'est l'effondrement de la voûte. C'est-à-dire que tout est tombé par terre, d'un coup. Et par-dessus s'installent des petites pièces, des petits bâtiments médiocres. Oh, qui sont ces gens qui occupent les lieux ? On aurait pu s'attendre quand même à ce que les anciens rois de Samarcande, exilés donc à une trentaine de kilomètres à Ichtikhan, reviennent dans la ville pendant les périodes, dans les années 720-730, où la ville a plusieurs reprises été perdue par les Arabes. Ils sont peut-être revenus autour de la ville, mais pas là. Peut-être ailleurs sur le site de Kafir Kala, mais pas dans leur palais. Les gens qui occupent ici, c'est probablement une garnison. Enfin, on sait une chose, ce sont des gens qui stockent du butin. Alors, on a trouvé une superbe monnaie d'or au nom d'Abou Moslim, elles sont rarissimes. C'est une des seules au monde. Quelques trésors monétaires. Donc, on voit que ce ne sont pas forcément des démunis. Ça pourrait être une garnison qui stocke du butin. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Alors, passons à Boukhara. Alors là, sur Boukhara, les choses se présentent un peu différemment. Et on a là beaucoup de détails grâce à la chronique de Boukhara par Narshahi. Dont je vous cite ici des extraits. Et là, c'est très intéressant parce que c'est non seulement les conditions d'occupation de l'espace urbain, mais c'est les conditions de la conversion. Et vous verrez que dans le premier temps, cette conversion, elle n'est pas très motivée spirituellement. Bon, je lis. Kutaybah ibn Muslim les convertit trois fois à l'islam. Les convertit, les soumis, bon. Mais à chaque fois, ils apostasiaient et redevenaient infidèles. La quatrième fois, c'est en 709, c'est la prise définitive de la ville. La quatrième fois qu'il leur fit la guerre, il prit la ville et y établit l'islam avec grande difficulté. Ils acceptèrent l'islam en apparence, mais en secret, ils adoraient les idoles. Alors, très intéressant, ils adoraient les idoles. On ne va jamais nous dire ça dans un texte relatif à la conquête de l'Iran. On ne va jamais dire que les Zoroastriens adoraient les idoles. On ne parle que des temples du feu. On savait très bien que en Asie centrale, même si on peut toujours les classer sous l'étiquette zoroastrienne, il y avait des statues de culte. En secret, ils adoraient les idoles. Ils les adoraient chez eux, hein, on voit. Koutaïba jugea eux approprié d'ordonner aux gens de Boukhara de donner la moitié de leur maison aux Arabes, de sorte que les Arabes soient avec eux et informés de leurs sentiments. Koutaïba fit édifier une grande mosquée à l'intérieur de la citadelle. Il ordonna au peuple de Boukhara de s'y assembler chaque vendredi, car il avait proclamé « À quiconque sera présent à la prière du vendredi, je donnerai 2 dirhams ». Voilà la force spirituelle de la conversion. Dans les premiers temps de leur conversion à l'islam, pendant la prière, ils récitaient le Coran en persan, car ils étaient incapables de comprendre l'arabe. Alors en fait, le texte de Narshari qui est en persan, enfin qui nous est parvenu dans une traduction persane, dit en persan, mais il faut comprendre en sogdien. Parce que, il cite les ordres qui étaient donnés, qui sont très simples, ça veut dire « à genoux, levez-vous ». Et c'est des mots sogdiens. Donc on leur criait des ordres en sogdien. Ce qui comptait, c'est qu'ils fassent vaguement le geste de la prière. Visiblement, on ne leur demandait pas grand-chose d'autre. Sur les portes de la grande mosquée se trouvaient des images avec les visages effacés, mais le reste était dans l'état d'origine. Alors là, Nashari nous raconte toute une histoire. C'est que autour de la ville, les riches propriétaires avaient gardé leurs châteaux, ils les gardent longtemps. Et les riches n'avaient pas besoin des 2 dirhams. Ça veut dire qu'ils ont, eux, ils n'ont pas besoin de faire semblant de s'être convertis. Et donc, ils avaient gardé sur les murs, les portes de leur château. Donc, sur chaque porte, le propriétaire avait mis la figure de son idole. Ils avaient gardé sur les portes de leur château les images des dieux sogdiens. Et puis, un jour, il y a une expédition vengeresse de musulmans de Boukhara qui sont allés arracher des portes. Ils les ont ramenés dans la ville. On les a mis, mais en effaçant les visages. L'une de ces portes, alors nous dit Narshari, était encore visible au palais de Boukhara au XIIe siècle. Alors, ces portes, aujourd'hui, on peut très bien savoir à quoi elles ressemblaient. C'est ça. Alors, voilà un morceau d'un panneau de Kafir Kala, dont je vous ai parlé, et l'extraordinaire visage de la déesse Nana, la grande déesse de Samarcande. Et voilà, c'est un panneau qui vient de Penjikent, qui montre un dieu indien, Kartikeya, le dieu de la guerre, avec son paon. Voilà. Mais vraisemblablement, il est assimilé au dieu sogdien de la guerre, au dieu iranien de la guerre, Vahram. Il a une épée. Il est en fait comme un aristocrate sogdien dans la pose du délassement. Il a la conque typique de Kartikeya et son paon. Et ça, c'est un panneau. Bon, il se trouve que ce n'est pas sur une porte. C'est un panneau trapézoïdal qui ornait la base d'une coupole, laquelle peut-être représentait des divinités astrales. Or, Kartikeya, Vahram, c'est Mars, le dieu de la planète Mars. Ça pourrait expliquer l'image. C'est exactement ça que les gens de Boukhara sont allés prendre dans les châteaux pour mettre sur la porte de la mosquée et puis en effaçant les visages. Alors, on a des renseignements aussi sur Balkh, qui est prise en 705. Alors là, à Balkh, le schéma est un peu différent, parce que là, effectivement, les Arabes ont vécu dans un campement en dur. Aujourd'hui, entre Balkh et Mazar-i-Sharif, on pense qu'on a identifié l'emplacement, ça s'appelle Baroukan. Et on nous dit, pourquoi n'ont-ils pas vécu dans la ville à ce moment-là? La ville était en ruine, et on nous parle d'une épidémie peu avant la conquête. Je vous avais dit, il n'y a pas vraiment d'indice d'épidémie massive comme en Iran à la même époque. C'est un des rares indices d'une situation épidémique. Alors, entre-temps, j'avais fait donc cette hypothèse que peut-être la peste de Justinien, qui a dépeuplé l'Empire byzantin et facilité la conquête arabe, n'aurait pas atteint l'Asie centrale. Et tout récemment, donc, Étienne de la Vessière me signale un texte byzantin. Mais alors, il m'a pas encore envoyé la référence exacte, mais c'est très intéressant, qui dit « À l'est de l'Iran, il n'y a pas la peste. » Voilà. Ce qui pourrait correspondre à cette idée. Alors, il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut faire sur les facteurs d'immunisation de la peste. Il y a une hypothèse très intéressante, c'est que les populations qui sont le plus dans la promiscuité avec le cheval ont des immunités aux bacilles de la peste. On le soupçonne parce que lors de la dernière grande peste en France, la peste de Marseille, dans les années 1730, les palefreniers et les personnels des écuries n'attrapaient pas la peste. Et donc, on pense maintenant qu'ils étaient immunisés par leurs chevaux. Alors, vous me direz, les Iraniens, ils montaient à cheval aussi. Mais, bon, peut-être en Asie centrale, avec les Turcs, bon, avec une présence peut-être plus massive et plus diffusée de la cavalerie, ça pourrait être une des explications de la... Parce que le schéma vaut à nouveau pour la peste noire. L'Asie centrale a été peu touchée par la... Les Mongols n'ont pas attrapé la peste noire. Ils l'ont répandue. Ils l'ont répandue par leur migration et ils l'ont répandue comme arme bactériologique parfaitement identifiée. Quand ils ont assiégé Kaffa, le port génois sur la mer Noire, ils ont balancé dans la ville des cadavres de rats et des cadavres de morts de la peste. Donc ils savaient très bien comment se transmettait la peste. Mais eux ne l'avaient pas. Voilà, donc c'est ce qu'on pourrait être amené à reparler de ces sujets. Alors, Merve, on a des indications à Merve. C'est important puisque c'est, je vous l'ai dit, le premier grand point d'appui de la conquête. C'est la ville à partir de laquelle où réside généralement le gouverneur du Khorasan, la ville à partir de laquelle se sont menées les campagnes sur l'Asie centrale. Alors, dès 670, 50 000 guerriers arabes avec leurs familles, sont envoyés de Basra et Koufa à Merv. Les chiffres ont été mis en doute, paraissant incroyablement élevés, mais dans une étude récente, Étienne de Lavessière a montré que c'était crédible, que ça, du coup, ça aurait représenté la moitié. Merv aurait eu la capacité de nourrir, l'oasis de Merv aurait eu la capacité de nourrir entre peut-être 300 000, 400 000 habitants. Et on peut du coup très bien imaginer que la moitié de la population est désormais constituée d'Arabes avec leur famille. Alors, c'est confirmé par l'étude de la cartographie du peuplement réalisée par la mission italienne de Tosi, assez longtemps. Les points rouges sont les points d'occupation à l'époque sassanide. Voilà, Merv est ici. Et les points verts sont les points d'occupation à l'époque islamique. Alors, vous voyez, ça se densifie considérablement à l'époque islamique ancienne, mais toujours à l'intérieur du grand mur d'Oasis qui remonte, celui-ci, vraisemblablement à l'époque sassanide. Il y en a un autre plus petit qui remonte aux Grecs. Alors, même, on nous dit que dans la ville même, la moitié des maisons sont attribuées aux Arabes. Même histoire qu'à Boukhara. Mais alors, cette proximité partout et précoce des Arabes et des éléments locaux aura des conséquences, parce que c'est là où c'est cette proximité qui va engendrer le nouveau milieu mixte arabo-persan d'où sortira la révolution abbasside. Ce n'est pas par hasard que la révolution abbasside est sortie de l'oasis de Merv en 747. La colonisation proprement rurale, on la saisit donc très bien à Merv. En revanche, elle arrive plus tardivement à l'est, en Sogdiane. Youri Kariev, dans son livre récent dont j'ai parlé sur Samarcande et le Sogd à l'époque abbasside, ne voit pas les Arabes s'installer vraiment dans les villages avant les années 850, donc déjà au début de l'époque samanide. Voilà ce qu'on peut dire sur la répartition du peuplement. Alors, que peut-on dire maintenant du sort des classes sociales ? On saisit très bien ce qui se passe à Penjiket. La ville est prise en 722, largement abandonnée, sauf une garnison arabe qui occupe l'ancien palais, lequel est dont le décor, je l'ai dit, qui comportait une propagande politique, est soigneusement détruit et bûché, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Et dans les années 740, les maisons sont restaurées, les gens reviennent. Et évidemment, Marchak a pensé, on est fou, que c'était la conséquence de la politique de pacification de Nasr Ben Sayor, qui a accordé une amnistie aux anciens Sogdiens qui s'étaient exilés, notamment au Ferghana, amnistie ne comportant pas l'obligation de se reconvertir. Donc, il a laissé revenir des gens dont on savait très bien qu'ils n'étaient pas convertis à l'islam, ou que s'ils s'y étaient convertis, ils l'avaient abandonné très vite. Et la majorité des extraordinaires décorpins que nous avons dans les maisons de Penjikent remonte à cette phase, des années 740. Donc, encore une fois, l'art totalement pré-islamique de Penjikent, du point de vue chronologique, c'est pratiquement déjà l'époque abbasside. Alors voilà, alors, le plus célèbre de ces décors, c'est évidemment le cycle des exploits de Rostam, trouvé dans une maison particulière, dont on a parlé ici même à mon séminaire il y a 2 ans. Celui-là, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas à l'exposition au Ouzbékistan, puisque Penjikent est au Tadjikistan, mais vous ne le verrez pas non plus à Guimet à l'expo Tadjikistan qui se tient à partir de novembre cette année, parce qu'il n'était pas envisageable que l'Ermitage s'en dessaisisse. Il faut aller à Saint-Pétersbourg, le voyage en vaut la peine. Dans ces nouveaux décors, ce qui s'affiche surtout, plus qu'avant peut-être, certainement plus qu'avant, ce sont des thèmes épiques. Et des thèmes que, dans plusieurs cas, on peut raccrocher à des épisodes du Shahnameh. On sait maintenant qu'il y a trois cycles de peinture à Penjikent qui représentent des exploits de Rostam, dont un cycle qui est en fait centré sur son fils, Farhang-Mars. Alors là, ce n'est pas dans le Shahnameh, mais c'est dans ce qu'on appelle les petites épopées qui ont fleuri autour du Shahnameh. On voit très bien ces petites épopées qu'on avait dites tardives. Hein, on s'aperçoit maintenant qu'elles remontent à des sources qui sont également préislamiques. C'est déjà, en fait... on est déjà en route vers ce qui va apparaître en Iran à partir du Xe siècle, c'est-à-dire que le Livre des Rois va devenir le lieu majeur d'expression des nostalgies. L'ancienne culture, qui ne peut plus véritablement s'exprimer dans un art religieux, lequel d'ailleurs en Iran n'avait pour ainsi dire jamais existé, se met en avant le légendaire national. Et c'est déjà ce qu'on voit à Penjikent dans les années 740. Et un peu plus tard, je vais reparler des peintures plus tardives de Charistan dans Nostrouchada, qui sont autour des années 800, où là, on est vraiment tout à fait en route pour le Shahnameh. Alors, dans cette période de réhabilitation des maisons de Penjikent qui a duré une dizaine d'années dans les années 740, il y a quand même des thèmes religieux, des images de divinité existent encore, mais de manière assez significative, on leur réserve plutôt des pièces à l'arrière. C'est-à-dire, voilà, voilà un exemple typique d'une maison reconstruite à cette époque. Ce plan ici indique, bon, c'est pas très clair, j'en suis désolé, c'est ce qui a été publié, indique en hachure les bâtiments qui ont été réoccupés dans les années 740. Alors, la citadelle est un cas un peu à part, c'est réoccupé, mais par une garnison arabe. Et on voit que dans la ville basse, pratiquement tous les anciens quartiers de maisons sont réoccupés. Ce qui n'est pas réoccupé, c'est l'espace des temples. Alors, on voit que, ici, par exemple, c'est un peu comme à Samarcande, on réutilise les vieux murs sogdiens qui étaient increvables, mais les nouvelles peintures, quand les peintures ont des sujets véritablement religieux, c'est plutôt dans des secteurs plus discrets. Comme si, alors, hypothèse qu'ont fait Marchak et Raspopova, on ne tenait peut-être pas trop à mettre les nouveaux maîtres arabes de la garnison en présence de ses sujets. Et c'est des pièces où, en fait, qui étaient d'un accès plus réservé. D'une manière générale, d'ailleurs, dans cette phase de renaissance de Penji Kent, on reconstruit assez rarement des grands salons de réception. Il y en a beaucoup moins que dans les maisons des époques précédentes. Et dans un article récent, Michael Schenkar analyse cela comme un indice du déclin des structures communautaires. On n'éprouve plus le besoin de se rassembler dans des banquets autour, devant des images de divinités, comme on faisait autrefois. Un déclin des structures communautaires pourrait être un des facteurs d'explication de l'effacement assez rapide de la religion nationale, parce que c'est cette religion nationale, contrairement à l'Iran, elle n'est pas portée par une église, elle n'est pas portée par un clergé, elle est portée par les structures qu'on peut dire municipales ou les structures de voisinage. C'est comme ça qu'il analyse la religion sogdienne comme une religion beaucoup plus familiale et communautaire que proprement cléricale. Je pense qu'il a de bons arguments. Un point qui peut faire polémique, c'est un des arguments qu'emploient nos collègues pour penser que dans les pièces secondaires où on trouve des foyers muraux étaient des chapelles. C'est que dans certains cas, dans cette phase, ces foyers muraux ont été murés, comme si il y avait eu un certain moment, le propriétaire devient musulman ou la maison est occupée par des musulmans et on veut effacer cette trace de l'ancienne religion. Je dois dire que je n'y crois pas trop, j'ai souvent été amené à en parler. Mon opinion que je partageais avec Paul Bernard, que je partage maintenant avec Pavel Lourier, c'est qu'il y avait certainement des activités religieuses autour de ces foyers, puisque dans le contexte iranien, tout feu est forcément l'objet de libations, feu domestique l'est aussi, mais on n'a pas construit ces pièces et ces foyers pour faire des chapelles. Il y a des manifestations du culte parce qu'il y a un feu. Je cite toujours l'exemple magnifique dans un livre sur les Parsis d'Inde, on voit une très belle photo, un foyer, une plaque à feu, où se trouve le portrait conventionnel de Zoroastre, des vases avec des fleurs, évidemment des indices d'offrande. C'est la gazinière. Alors, on n'a pas fait des gazinières cultuelles. On met le portrait de Zoroastre et on met des fleurs parce que c'est parce qu'il y a le feu. Voilà. Je pense qu'on peut invoquer ce type d'explication ici. Alors, toujours à Penji Kent, les manifestations. Il y a quand même une petite survie des manifestations collective du culte, mais cette survie, elle est furtive. Un exemple, voilà les deux temples, j'ai souvent été amené à les montrer, qui sont abandonnés à la conquête. Il y en a un qui est incendié, ce temple-là, qui est le temple dit temple 1, qui semble avoir été plus proprement zoroastrien que le temple 2, qui est vraiment centré sur le culte de Nana. Bon, et dans ce temple 2, il y avait une petite chapelle qui avait été en fait apparemment détachée de l'ensemble du temple parce qu'elle avait sa propre entrée sur l'impasse. Elle ne faisait peut-être plus partie vraiment de ce complexe de temples. Et c'est une chapelle shivaïte. On a une image de Shiva sur son taureau avec son épouse Parvati. Voilà. Et c'est vraiment, comme m'avait dit Marchak, j'étais présent sur les lieux peu après la découverte, il avait dit, C'est un peu fort quand même pour le zoroastrisme sogdien. Il est en érection. C'est quand même... Là, on est quand même beaucoup plus en Inde. Enfin, il est en érection, mais malgré tout, on lui a mis un tissu. C'est pas... on l'a fait un peu textile. Voilà. Bon. Alors, cette image... Donc on peut penser que dans ce temple... Dans ce temple 2, réservé au culte de Nana, à un moment, une communauté qu'on pourrait dire peut-être proprement shivaïte, il y avait par exemple, on sait qu'à Penjikent, on a quelques inscriptions en écriture indienne, donc il y avait probablement des marchands indiens qui étaient présents, ils ont voulu avoir leur propre lieu de culte et ils ont obtenu une concession dans ce temple-là. Mais alors, voilà, cette image a été, cette statue a été. Masqué par un écran de briques juste avant la conquête arabe. Donc, les habitants de Penjikent ne tenaient évidemment pas à ce que les Arabes tombent là-dessus. Voilà. Ça aurait pu paraître carrément obscène et véritablement mériter l'accusation d'idolâtrie. C'est discutable. Plus tard, une petite chapelle est remise en service à l'arrière de la cour. Quelque chose d'un peu plus clair dans le temple, ce temple-là, donc le temple 1, c'est qu'à un moment, sous l'auvent de la cour, on a installé un curieux ensemble avec des trous par terre, trois ensembles de trois trous. C'est très vraisemblablement ce que dans le zoroastrisme on appelle un Bareshnumga, c'est-à-dire un lieu pour la grande purification rituelle, parce que dans le rituel actuel, on doit marcher successivement sur trois ensembles de trois pierres. Mais tel que c'est décrit dans l'Avesta, c'est plutôt des fosses. Et on voit très bien que ça peut difficilement s'expliquer autrement. Il y a une petite plateforme ici de pierres pour se tenir. Et cet ensemble, et on peut comparer avec le rituel actuel. Aujourd'hui, celui qui subit la purification est nu, marche sur des ensembles de pierres. Le prêtre est accompagné d'un chien qui prend sur lui l'impureté. On voit ici reconstitué dans le schéma reconstitué par Darmestetter. On a ces trois ensembles de trois trous, et donc à Penjikent, ce serait. Non, trois ensembles de trois pierres. En fait, dans l'Avesta, c'est décrit comme trois ensembles de trois trous, ce qu'on voit aussi à Penjikent. Donc, c'est évidemment pas une installation permanente, c'était tout le temps refait. Et donc, c'est un indice, quand même assez parlant, de ce que l'ancien temple, et surtout ce temple 1 qui est. Était plus propre, où on identifie plus nettement un répertoire zoroastrien, après la conquête, a continué à être fréquenté par des fidèles. Alors, il y a une nouveauté depuis deux ans. Une nouveauté, c'est qu'on sait maintenant qu'en fait, ils ont aménagé un tout petit temple au nord des deux grands temples abandonnés. Ici, dans cette zone. Ça a été fouillé donc, les deux dernières années par l'équipe de Pavel Lourier. Ce qui devrait être la salle du culte, avec quatre colonnes à base de pierre. Ça ne se trouve pas dans les maisons particulières. C'est vraiment... Ces bases ont été déménagées des temples. C'est un lieu de culte. D'ailleurs, on a des peintures qui représentent la déesse Nana. Pas de traces de peinture ici à l'arrière de la banquette. Donc, il y avait peut-être ici une... Il y a peut-être une statue de culte. Voilà. C'est ce local, avec une sacristie à l'arrière, un lieu de culte ici. Enfin, peut-être d'ailleurs que l'objet du culte était dans la pièce à l'arrière, comme c'est le cas d'ailleurs. C'est la reproduction à toute petite échelle du schéma typique des temples de Penjikent, avec une salle à quatre colonnes, et derrière, là, celle-là, où se trouve l'image de la divinité. C'est probablement ce qui se passe ici. Donc, ils ont, disons, le pouvoir arabe ça ne pouvait pas être fait clandestinement, à tolérer le réaménagement d'un petit lieu de culte de la religion locale. Autre exemple, à mi-chemin entre Samarcande et Penjikent, c'est un temple très très intéressant, Valarsar, qui a été fouillé dans les années 90. Un endroit intéressant lui-même parce que c'est près du barrage dont dépendait toute l'alimentation en eau de Samarcande. Et c'est un objectif stratégique. Chaque fois qu'il y a une campagne arabe sur Samarcande, il y a une bataille ou un raid sur Valarsar. Parce qu'on sait très bien que Valarsar, c'est là où on ouvre, où on coupe le robinet qui alimente Samarcande. Alors voilà, il y a un très grand temple extraordinaire avec une typique des temples sogdiens, un grand hall à colonnes, un autre ici, et il y avait une cella donc à l'arrière. Et ce temple, à un moment, est incendié, un énorme incendie. Moi, j'ai vu les cendres, ça montait jusqu'au plafond. Et à un moment, bon, sur la ruine, on reconstruit par-dessus l'ancienne cella trois pièces, dont celle centrale doit être la pièce principale, la cella. Mais il semblerait qu'il n'y a pas de statue de culte. Il y aurait peut-être un foyer mural. Peut-être qu'on aurait remplacé la statue de culte par un petit autel. Je ne suis pas totalement convaincu, mais c'est ce que pensent les fouilleurs. On a, dans cette phase de reconstruction, quelques traces de peinture, pas très parlant, mais ça suffit pour voir qu'il y a des adorants ici, avec des, vous voyez, les pieds sont petits, et là, il y a un dieu avec les pieds plus grands, et ce dieu, il danse. C'est Shiva, enfin, ça peut être le Shiva sogdien, c'est-à-dire qui a le nom, en fait, d'un dieu iranien, Weshparkar, tel qu'il est représenté ici à Penjikent, avec cette position des pieds, le corps bleu de Shiva. On a des indices qu'à l'époque antérieure, c'est plutôt la déesse Nana qui est vénérée dans ce temple. Dans cette reconstruction, on aurait, semble-t-il, une image du dieu Weshparkar. Le problème, c'est la chronologie. On n'a en fait pas de monnaie, très peu d'indices pour dater cette... On aimerait bien pouvoir dater précisément cet incendie et cette reconstruction. Alors, est-ce que c'est en parallèle avec Penjikent ? Il est possible que Valarsar ait été à un certain moment dans l'orbite de Penjikent. Donc, on se situerait en 722. Ça pourrait être en 712, au moment de la chute de Samarcande. Les fouilleurs pensent avec certains arguments, enfin, assez faibles à mon avis, que c'est encore avant, c'est dès les années 680, quand il y a un premier raid arabe qui s'abat sur Samarcande. Un argument tout de même, c'est que ces peintures de la dernière phase, bien que très mal conservées, enfin, très peu conservées, sont d'une qualité esthétique tout à fait compatible avec tout à fait compatible avec les époques plus anciennes. Mais ceci dit, quand on reconstruit les temples, les salons des maisons à Samarcande et qu'on refait des peintures dans les années 740, le niveau artistique est le même qu'avant. Voilà. Samarcande offre un cas différent parce que là, les manifestations cultuelles et artistiques de l'ancienne religion ne pouvaient plus s'exprimer dans la ville elle-même à cause des conditions de l'armistice. On ne pouvait pas avoir 12 000 soldats arabes et leurs familles ici et continuer à tolérer l'ancien temple. Bon, s'il se trouvait là, ce qu'on pense. Il est de toute façon abandonné et très peu de temps après, il est remplacé par un palais arabe et la mosquée. On peut difficilement imaginer qu'il y ait eu des lieux de culte de la religion ancienne à l'intérieur de la ville. Alors, était-il à l'extérieur ? On ne connaît pas assez l'archéologie des faubourgs pour le dire. Voilà ce qu'on peut dire sur Samarcande. Il y a des indices d'une survie plus durable de la forme locale du zoroastrisme, mais qui proviennent d'autres régions. Alors, j'ai déjà parlé de Boukhara, je vais être amené à en reparler. Et puis, quelques indices assez nets qui proviennent des zones qui ont été conquises les dernières. les Ostrouchana, Fergana, ça nous met déjà au début du IXe siècle. Mais voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je dois vous fausser compagnie, et je vous dis donc à dans 4 semaines, le 14 mars.